France Musique. Les grands entretiens, Thierry Jousse, France Musique.
Je m'appelle Gabriel Yared, je suis né en 1949 et je suis compositeur.
Deixa cantar de novo trovador, a merencória luz da lua, toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido.
Bonjour Gabriel Yared.
Bonjour Thierry.
Hier, vous nous avez parlé de la période, votre période libanaise, qui je crois s'achève en 1969. Aujourd'hui, on va poursuivre dans votre trajectoire. Alors en 69, je crois que vous quittez Beyrouth pour aller au Brésil.
En 68-69, je travaille dans les bars pour gagner de l'argent, pour être indépendant, pour quitter, pour partir. Et j'ai rencontré en été, on était en villégiature dans le Mont Liban. La ville s'appelait Alley, A-L-E-Y. J'ai rencontré tout à fait par hasard le mari d'une amie de ma sœur, qui s'appelle, lui, Augusto Marzagao, qui est un Brésilien. Et puis, il venait souvent avec sa femme voir ma sœur, et puis moi, je me mettais au piano, je jouais des choses, j'improvisais beaucoup. Et il m'a dit, j'ai une bonne idée pour toi. Tu vas représenter le Liban au Festival de la Chanson. Il y avait un grand festival qui se tenait tous les ans au Maracanãzinho, le petit Maracana, auquel participaient tous les chanteurs de tous les pays du monde. Il m'a proposé donc de représenter le Liban. Je dis mais moi je chante pas. Il me dit on trouvera quelqu'un pour chanter. Je dis mais je n'écris pas de texte. Il me dit on trouvera quelqu'un, compose la musique. Et j'ai écrit, je me souviens, ça s'appelait, pour moi je l'avais appelé Song Without Love, c'est une valse. Et je lui ai joué, il m'a dit c'est d'accord, on va demander à tes parents maintenant. Il se fait que le frère de ma mère a émigré au Brésil dans les années 50. Donc j'avais quelqu'un là-bas, que je ne connaissais pas d'ailleurs, puisqu'il a toujours vécu là-bas. Et mes parents ont accepté que je parte, à condition que je loge donc chez mon oncle.
Qui habitait dans quelle ville?
Qui habitait à Rio de Janeiro, à Copacabana. Et je suis resté chez lui à peu près un mois, puis après j'ai pris un appartement. Donc me voilà parti pour 15 jours pour le Festival de la Chanson. On a cherché un orchestrateur, parce que moi, bon, j'étais pas censé savoir orchestrer. On a cherché une interprète. C'était une jeune noire américaine qui s'appelle Gwen Owens. Et elle a écrit le texte de la chanson. Tout ça en une dizaine de jours parce que le festival avait lieu très très vite. Et l'orchestrateur, c'était un orchestrateur brésilien, a commencé à travailler avec l'orchestre. Je trouvais que l'orchestration ne me plaisait pas, mais bon, il fallait de toute façon que j'accepte. La chanteuse a chanté et j'ai eu le troisième prix. Alors tout le monde trouvait ça extraordinaire, moi je comprenais pas, parce que bon, j'avais fait une chanson tout à fait normale. Et le premier prix a été attribué au chanteur des Blood, Sweat and Tears, qui était un groupe formidable de l'époque. Je me souviens de son nom, c'était David Clayton Thomas. C'est lui qui avait eu le premier prix, le deuxième prix c'était une brésilienne. Et de fil en aiguille, je ne sais pas comment ça s'est fait, me voilà au Brésil, à Rio de Janeiro, une ville magnifique, et je me dis, je ne veux pas rentrer au Liban. Alors j'ai écrit à mes parents, j'ai dit je vais rester chez mon oncle. Et j'ai commencé à chercher un travail. Augusto connaissait pas mal de boîtes, dont une à Ipanema qui s'appelait Number One. Et j'ai été rencontrer le patron du Number One, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis ben voilà, je peux jouer entre un orchestre et un autre. Et il m'a proposé de composer des musiques et de réunir un petit groupe pour que ça ne dépareille pas avec les autres groupes.
A vida não era assim, não era. não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar. A gente não era assim, não era assim.
Il y avait un groupe extraordinaire là-bas qui s'appelait Don Salvador et Abolição. C'était des compositions originales. Don Salvador était au piano, sa femme chantait, Maria. Et donc, avant de commencer, j'ai essayé de réunir des musiciens. J'avais un saxophoniste, un trombone à piston que j'ai trouvé, un batteur, un bassiste que j'ai emprunté à Don Salvador, et moi j'étais au piano. Et toute la journée, je composais des choses que je créais le soir dans cette boîte qui s'appelait Number One, Rua Maria Quiteria et Ipanema. Et petit à petit, je me suis dit, mais ce pays, je l'aime, cette musique, je l'adore, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de rester ici. Et j'ai commencé à recevoir des émoluments pour le travail que je faisais. Et je me suis décidé donc à rester au Brésil. Dans cette boîte venaient beaucoup de musiciens brésiliens. Il y avait Jorge Ben qui y passait, il y avait Milton Nascimento, il y avait Chico Buarque de Holanda. Et il y avait un jeune compositeur à l'époque qui avait fait un tube avec Elis Regina qui s'appelle Ivan Lins. Et Ivan Lins, en écoutant ce que je faisais, m'a demandé si je voulais réaliser son album, son nouvel album, c'est-à-dire faire les orchestrations, chose que je ne savais pas faire, et travailler avec lui. J'ai accepté. Et Augusto Marzago est revenu de nouveau à la charge en me disant « J'ai une chanteuse très intéressante, est-ce que tu veux composer deux chansons pour elle et faire les orchestrations ?» Je dis « Mais je sais pas les faire, il m'a dit « Tu te débrouilleras ». J'ai acheté du papier musique, très grand, et j'ai fait des orchestrations très très influencées par Bacharach, par Ravel, L'Enfant et les Sortilèges surtout. Et je me suis rendu compte après, quand j'ai enregistré à São Paulo, parce qu'il fallait enregistrer, qu'il y avait plein de... pas de citation de Ravel, mais d'utilisation instrumentale des flûtes Flatterjung, des flûtes à coulisses, comme il y en a dans L'Enfant et les Sortilèges, enfin bref. Mais apparemment, l'orchestre sonnait pas mal. C'était mes toutes premières orchestrations au Brésil. Et j'ai décidé donc de demander la Carta de Zanove, qui est la carte de séjour, pour devenir plus tard résident définitif brésilien. Et le temps est passé, je suis resté exactement 18 mois. Où je ne faisais que travailler, composer, orchestrer pour Ivan Lins, mais pour un petit ensemble, et réaliser des albums à gauche, à droite. Et je me suis dit, bon, maintenant je vais partir, je vais passer en France, parce que avant de partir au Brésil, j'ai oublié de vous dire qu'en 69, j'ai reçu une bourse du gouvernement libanais pour aller en France suivre des études. J'étais trop vieux pour entrer au Conservatoire National, et j'ai pu trouver une place comme auditeur libre dans la classe de composition de Henri Dutilleux, que je ne connaissais pas, et dont je ne connaissais pas l'œuvre, et de Maurice Ohana pour l'orchestration. Et me voilà parti donc pour un an à Paris pour faire des études de composition, mais en fait je n'en ai pas fait, parce que tous les élèves qui assistaient à cette classe, ils étaient 15, environ 15, étaient tous des premiers prix de conservatoire, de Rome, de Madrid, de Berlin, etc., et suivaient les cours de Dutilleux. Et moi j'étais assis dans mon coin, et je suivais tout ça. Et je trouvais cet homme passionnant, parce qu'il était tellement ouvert à tous les types de musique. Il n'était pas sévère d'abord, il était bienveillant. Tout ce qu'il disait... résonnait dans mes oreilles, je me disais mais pourquoi je n'ai pas fait l'harmonie, pourquoi j'ai pas fait de contrepoint, et je n'ai pas dit ça à Maître Dutilleux. Ce n'est qu'à la fin de l'année qu'il m'a dit il faudrait que vous retravailliez un peu l'écriture, le contrepoint, pas l'harmonie mais le contrepoint. Et je lui dis maître, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je suis tout à fait autodidacte. Il m'a dit alors quoi que vous fassiez plus tard, promettez-vous et promettez-moi que vous apprendrez le contrepoint. Voilà. Et c'est après ça que je suis parti au Brésil.
Thank you.
la relation que vous avez eue avec du Tilleux, même si elle a été fugace et a été importante pour vous, pour la suite des événements.
Elle est devenue importante par la suite, quand j'ai rencontré sa musique.
Gabriel Yared.
Que je ne connaissais pas. Quand j'ai commencé à écouter les deux symphonies, à l'époque, il y avait, je pense que Métabole avait déjà été composé, que j'ai regardé sa sonate pour piano, que j'ai lu Au gré des ondes, bon, qu'il n'aime pas beaucoup, mais déjà, on sent dans cette œuvre pour piano tout du Tilleux qui est là, dans la finesse d'écriture, dans le choix des timbres, même au piano. Et je me suis dit que j'avais eu la chance de rencontrer finalement un génie et de ne pas savoir qui il était. Mais ça m'a beaucoup marqué puisque, quand je reviendrai à Paris et que j'y resterai, je garderai avec lui une correspondance et nous parlerons et nous nous reverrons encore. Parce que quand j'étais au Brésil, je recevais pour Noël ou Nouvel An, je recevais une carte de Geneviève Joye et Henri Dutilleux et donc je correspondais avec lui.
Qu'est-ce que vous avez gardé de ces 18 mois au Brésil dans une période assez paradoxale finalement, parce que c'est une période de grande créativité, notamment musicale, mais c'est aussi la période la plus dure de la dictature au Brésil?
Disons que je n'ai pas vu le côté social externe, ni politique. Je n'ai vu qu'une seule chose, obsessionnellement toujours, la musique et tout ce qui a trait à la musique. Les musiciens, les compositeurs, les interprètes, je n'ai vu que ça au Brésil. Et le plaisir d'y être aussi, parce que moi je finissais de travailler à 2-3 heures du matin, j'allais sur une plage, je dormais un peu, puis je rentrais dans le petit appartement que j'avais loué, et je travaillais toute la journée pour créer des choses pour le soir. Donc ça m'a pas beaucoup permis de voir le Brésil du dedans. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au bout de 3 mois, je parlais brésilien comme un carioca. Les gens ne savaient pas que je n'étais pas brésilien. Parce que j'avais tellement faim de cette culture, de cette langue aussi, que j'ai très vite appris à parler. Tout. Avec le sotaque, avec l'accent carioca. Et je parlais tellement bien portugais, enfin carioca, que quand je suis arrivé à Paris, je confondais les mots. Je disais, je veux pas vous attrapalier, je veux pas vous déranger. Et bien des choses. J'ai une façon inconsciente d'embrasser ce que j'aime, de m'identifier, d'en connaître très très vite tous les, non pas les secrets, mais tous les idiomes. You gave me yesterday, but I wasted it so long. You're giving me today, a living future home. Why, Lord?
Suite de votre trajectoire, vous quittez le Brésil, je crois, en 1971, c'est ça?
Oui, fin 71, et je quitte le Brésil pour quelques jours.
Pour aller en France.
Pour passer par la France, voir mes amis, ce que j'ai rencontré quand j'étais là en 69, et passer au Liban, dire au revoir définitivement à mes parents. Et c'est là que je suis resté en France, et je me suis installé en France. Et c'est le fruit d'un hasard, encore une fois. Je me dis toujours qu'il y a comme une sorte de destin dans ma vie, un ange qui guide mes pas. Après coup, je me dis que j'ai bien fait de ne pas être resté au Brésil. Mais en France, une fois que je suis arrivé en France, j'ai rencontré les frères Costa, qui sont des chanteurs et compositeurs. Nous sommes devenus très amis et nous avons mis en commun les chansons que chacun de nous avait fait de son côté. Et puis nous avons été voir un éditeur chez CBS à l'époque, il s'appelait Monsieur Hébrard, et qui s'est passionné pour ces chansons, qui n'étaient pas du tout françaises, on voulait chanter en anglais. On a trouvé un auteur qui a traduit nos blablabla en anglais et il nous a permis d'enregistrer les 12 chansons en studio. Je me souviens, c'était le studio d'Avou. Mais il fallait écrire les orchestrations. Alors j'ai dit, bon, moi je sais y faire. Et je me souviens que j'ai passé beaucoup de temps parce que j'écrivais tout, absolument tout. Les accords de guitare, mais aussi les positions, le pied de grosse caisse, la hi-hat, tout était écrit. Même les interventions qu'on appelle pick-up, etc. Et nous voilà à Davout avec des musiciens que je connaissais pas. Il y avait au piano Maurice Vander. À la basse, c'était Francis Dariscuren. Il y avait trois guitares, je me souviens, Tony Rallo, Jiménez et Kaufmann. À la batterie, c'était André Arpino. Moi, j'étais de temps en temps au clavier. Et on faisait trois titres par séance. Trois titres. Une fois qu'on avait fini, on enchaînait immédiatement avec les cordes qui attendaient derrière la porte. Je me souviens que j'avais comme premier violon Lionel Galli. L'autre jour, j'ai écouté une émission que je trouve passionnante au cœur de l'orchestre. Et j'ai écouté Christian Merlin parler des musiciens de l'opéra. Mais c'était eux, mes musiciens. C'est Lionel Galli, Michel Cron, Hubert Varron. Et derrière les cordes attendaient les cuivres. Et quand les cuivres étaient terminées, les chœurs rentraient. Donc on faisait trois titres pratiquement terminés par jour. On a fait ça pendant quatre jours. Et l'album est sorti et s'appelait Costa y arrête Costa, dans lequel je chantais, dans lequel les frères Costa chantaient aussi. On chantait en chœur. Et il y avait 12 chansons qui étaient assez étonnantes pour l'époque. Et l'album n'a rien fait, évidemment, parce que c'était pas du tout dans la tradition française. Par contre, ce que ça a fait, c'est encore une fois une erreur de casting, je dirais, c'est que les musiciens ont beaucoup parlé des orchestrations, entre eux, et que petit à petit, le milieu d'enregistrement à Paris a parlé d'un nouvel orchestrateur qui était là, qui venait du Brésil, qui écrivait très rythmique, etc. Et un régisseur à l'époque qui jouait de la harpe, qui s'appelle Jean-Claude Dubois, s'est pris beaucoup d'amitié pour moi, et c'est toujours mon ami, et a commencé à me présenter à des producteurs, etc.
Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux.
La première orchestration que j'ai faite après les frères Costa, ça a été le duo de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, J'ai un problème. Voilà.
C'était un grand tube à l'époque.
C'était un grand tube, oui. Et de là, je suis rentré dans une sorte de tourbillon. Moi, je suis lent, je ne peux pas orchestrer très vite. Et je faisais à peu près 5-6 orchestrations par semaine, ce qui était énorme pour moi. Et je passais d'un artiste à un autre, d'un artiste à un autre. Je gagnais de mieux en mieux ma vie. Eh bien, c'est grâce à ces chanteurs que j'ai pu faire mon éducation musicale. D'une part, entendre ce que mes orchestrations, les maladresses dans mes orchestrations parfois, donnaient. C'est formidable d'avoir comme ça une sorte d'application pratique immédiate. Et d'autre part, parce que j'ai décidé que je n'allais pas ni acheter un appartement, ni continuer à dépenser mon argent bêtement, j'ai commencé à acheter des partitions d'orchestre, des partitions de musique de chambre, mais par centaines.
Dont certaines, j'imagine, sont toujours dans la pièce où
nous sommes. Toutes sont ici. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant sur Internet, IMSLP, où on peut ouvrir sur Internet et puis on télécharge. À l'époque, on achetait des partitions et ça coûtait très très cher. Très. Mais j'achetais des partitions, je les regardais vraiment attentivement, je prenais des notes, j'essayais de comprendre pour arriver aussi à embrasser tout de suite une page, à savoir la lire et la réduire au piano. Ça m'a beaucoup aidé pour apprendre l'orchestration et en même temps la musique. Et c'est là que, petit à petit, cette obsession que j'avais de Ravel s'est un peu dissoute grâce à ma rencontre avec Bartok, avec Prokofiev et avec Stravinsky, à travers ces partitions-là. Et là, je me suis dit, il y a un autre monde quand même. Ravel, c'est formidable, mais Ravel va me castrer d'une certaine manière. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que lui. C'est formidable ce qu'il a fait. Mais je ne veux pas que ça.
Thank you.
Gabriel Yared.
Quand j'étais à Paris pendant cette période-là, je voulais dire que je dépensais aussi un peu d'argent pour acheter des lettres autographes de Ravel. Parce que j'étais quand même fou de Ravel. Et quand chaque fois qu'il y avait une lettre autographe, les gens avaient mon téléphone, les vendeurs d'autographes. On m'appelait, on me disait, voilà, nous avons une lettre. À l'époque, je sais pas, c'était 400 francs ou 600 francs. Et j'ai toujours chez moi, aujourd'hui, 5 lettres de Ravel, dont deux qui sont très très intéressantes. Une qui s'adresse aux droits d'auteur, qui parle des droits d'auteur à la SACEM, et une autre dans laquelle il donne la formation de Scheherazade, voilà, à son éditeur. Bon, je tourne la page Ravel, mais sans vraiment la tourner complètement, puisque même encore aujourd'hui, je reviens à Ravel, je déchiffre, très souvent je lis, je prends toujours plaisir, mais le fait d'avoir rencontré Bartok et Stravinsky m'a ouvert ce champ qui était limité par Ravel.
J'allais vous poser une question à propos, puisque vous mentionnez des compositeurs du XXe siècle, Stravinsky, Bartok et même Ravel, Prokofiev. Est-ce que vous avez été tenté? Alors, je sais que vous allez me dire que vous n'aviez pas peut-être le background, l'éducation pour faire ça, mais est-ce que vous avez été tenté de vous diriger vers le milieu de la musique contemporaine qui était assez actif en France à cette époque-là?
Je ne pouvais pas me diriger vers ça.
Je pense à Bob, évidemment Boulez, mais pas
oui,
seulement.
Il y a Berlioz, il y a Stockhausen, il y a des gens passionnants. Je ne connaissais pas encore Ligeti à l'époque. Je suis sûr que si j'avais été...
C'est un compositeur qui vous passionne, je crois.
Oui, oui. Oui, parce que si j'avais voulu faire de la musique...
Derrière vous, il y a une
pile.
Une partition de Ligeti.
Il y a une pile, oui. Et derrière, il y a une pile.
Ah, oui.
Si j'avais connu Ligeti, peut-être que je me serais orienté, oui, parce que je me serais dit, oui, on peut faire finalement de la musique tout à fait, non seulement audible, mais accessible, tout en écrivant quelque chose de musicalement très, très évolué, vraiment, parfois scientifique même, je dirais. D'ailleurs, Ligeti a hésité entre une carrière scientifique et la musique. Non, ça m'intéressait pas parce que ça manquait de visage. Et que finalement, moi, je suis un compositeur de mélodie. Je prétends pas pouvoir faire des œuvres. Je ne pense pas que je pourrais écrire un opéra. J'écris des musiques pour le ballet, oui. J'écris des musiques pour la pub, j'écris des chansons, j'écris des musiques de films. Mais je me vois pas du tout écrire des œuvres concertantes comme ça pour le concert. Si je voulais être honnête, je serais tout à fait tonal. Et donc pas de mon temps. Moi, quand je compose, je chante d'ailleurs. Quand je compose, je chante toujours. Même quand j'écris une orchestration, je fais chanter chaque instrument quand je l'écris. J'ai besoin de ça. Peut-être pas de mon siècle. Si, pourtant, si.
C'est sur la musique de Gabriel Yared pour le ballet de Caroline Carson, Shamrock, que se termine ce deuxième entretien. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Valérie Lavalard, Georges Thau, Flora Sternadel et Olivier Guérin. Vous pouvez retrouver la programmation musicale, la réécoute et les podcasts de ces grands entretiens sur le site francemusique.fr à la page Grands Entretiens. Demain, nous retrouverons Gabriel Yared pour le troisième épisode de ces grands entretiens. Il nous parlera de ses activités d'arrangeur pour la chanson française dans les années 70.
À réécouter sur francemusique.fr.